Nous sommes accompagnés ce soir par Pierre Valaïs. Qui assurera donc le débat, information et ensuite échange. Ce soir aussi, Marie des Chemins de l'Ancre de la librairie de Conques a fait un étalage de livres toute la journée. Comme nous sommes un peu en retard, elle m'a dit on va passer sur la bibliographie ce soir. Et donc, merci Marie d'avoir fait cet étal. Et ce n'est pas de l'utopie que de diminuer nos consommations énergétiques, mais une nécessité. Et ça, je laisse à Pierre le soin de clarifier cette idée-là pour nous.
C'est à moi.
C'est à toi. Puisque nous n'avons pas la bibliographie ce soir.
Bon anniversaire en tout cas, et merci beaucoup d'avoir appelé Canopée pour aussi aider et mettre en place ça, et nous ça nous fait toujours plaisir que sur le territoire on nous interpelle. Alors quand on m'a demandé d'intervenir pour ce soir, j'ai essayé de réfléchir à quelque chose qui puisse susciter du débat. Donc, je ne vais pas être très, très long, je vais essayer de poser quelques bases, sachant que je vais écrire quelque chose au tableau, plusieurs choses, et que vous pourrez, si vous le désirez, rajouter des éléments ou modifier des termes qui ne vous plaisent pas. On peut en discuter, ça me semble intéressant. Donc, en gros, je me suis posé la question, alors, tout d'abord, quand même. Avant, la question de la nécessité de la transition énergétique. On va régler le problème assez rapidement. Le pétrole, le gaz, 50 ans, entre 40 et 70 ans, vous avez des chiffres qui sont 46 ans, c'est super précis, c'est-à-dire que le 25 décembre, il n'y aura plus rien, et vous aurez tout consommé dans la journée, le lendemain, il n'y aura plus rien. On ne sait pas trop comment ça va faire, cette fin programmée, mais en gros, de toute façon, on n'a pas pour un siècle de pétrole, on n'a pas pour un siècle de gaz, on n'a pas pour un siècle d'uranium, on a peut-être un siècle de charbon. Donc du point de vue des consommations, le problème devra se régler dans les 50 ans à venir, sachant que ça ne va pas être une grosse consommation qui va s'arrêter, comme je l'ai dit, du jour au lendemain, mais il y aura probablement une diminution et une préservation des stocks de pétrole, de gaz, etc., pour ce qui va être utile, c'est-à-dire l'armée, la santé, vraiment, etc. Et l'uranium, c'est 70 ans. Dans certains chiffres, moi j'ai lu Science et Vie, 46 ans. Donc de toute façon, on en a plus pour un siècle de... Et entre-temps, on a un autre problème qui est quand même le problème du réchauffement climatique, qui fait que ce qu'on utilise génère des gros problèmes climatiques. Bon, je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant. L'année prochaine, il y a un sommet qui devrait régler le problème. À moitié confiance, en fait, sur le coup, mais bon, voilà. Je pense qu'il sera nécessaire à ce moment-là que les citoyens se fassent interpellent, en tout cas. Voilà. Donc, sur la nécessité de la transition énergétique, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le sujet. Donc, je me suis posé la question de savoir, en fait, la question n'est pas savoir s'il y a transition ou pas transition, mais comment va se passer la transition. Il y aura une transition de toute façon. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit actuellement, dans 50 ans, c'est plus le même. C'est physiquement pas possible. Donc la question, c'est savoir comment le monde dans lequel nous sommes actuellement va évoluer et vers quoi il peut évoluer. Quelles sont les possibilités d'évolution. Donc en fait, j'ai essayé de voir quels pouvaient être les types de transitions et je leur ai donné un nom. C'est ce nom-là que vous pourrez peut-être faire évoluer. La première transition, c'est ce que j'appelle la transition. Donc on va dire le type de transition. Donc la première, c'est la survivaliste. Survivaliste, qu'est-ce que ça veut dire ? il n'y a pas de pétrole pour tout le monde, il n'y a pas de charbon pour tout le monde. Donc c'est simple, on supprime 6 milliards de la population. On va dire qu'il reste 600 millions de personnes. Et on supprime 6 milliards d'individus. Premier type de transition.
C'est possible.
C'est marrant, ça plombe. Il n'y a pas beaucoup qui se disent qu'ils vont être dans ceux-là, quoi. Hein? Donc ça, c'est la première transition.
Possibilité.
Je vous rappelle que c'est la transition joyeuse. Hein? Donc,
ce soir.
Le deuxième type de transition, je l'ai appelé cybernétique. Alors pourquoi cybernétique? Parce que j'ai lu Constellation cet été, et il y a un excellent passage sur ce qu'est la cybernétique. Donc la cybernétique, c'est des systèmes qui se mettent en place et qui sont possibles actuellement parce qu'on a des ordinateurs, on a du réseau, on est capable de tout contrôler, de contrôler combien on émet, combien on utilise, combien on va devoir utiliser, etc. Cette transition cybernétique, c'est une transition qui contrôle toutes les consommations et de chaque individu à chaque endroit. Ce type de transition cybernétique peut avoir deux formes. Qui est la première, qui est totalitaire. Et une deuxième forme qui peut être démocratique. Sachant que, à partir du moment où on est dans une transition cybernétique, on a toujours des ferments, des germes de transition totalitaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, à partir du moment où vous mesurez en permanence ce qui est émis, que vous contrôlez en permanence ce qui est fait, etc., vous pouvez passer de la RT 2012 à quelque chose de beaucoup plus grave. D'accord ? La RT 2012 rentrant dans le cadre de la transition cybernétique. C'est-à-dire, on vous donne un cadre dans lequel vous devez être. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, ça ne va pas.
RT,
la punition. Comment ?
RT, ça veut dire.
Comment ? La RT, c'est la réglementation thermique 2012. Voilà, excusez-moi. Donc, en fait, ça, c'est de la transition qui produit de la réglementation. Donc forcément, comme ça produit de la réglementation, on peut aller du conseil avisé à le camp d'internement. Voilà. Et en fait, après, j'ai pensé qu'il y avait quand même un type de transition qui pouvait être, j'ai appelé autogéré. Et qui concerne en fait, qui est la transition que chaque citoyen peut mettre en place à son niveau. Donc là, on est sur une transition qui va être mise en place par le citoyen. Ah tiens, j'ai debout hein, mon... Je viens de comprendre pourquoi j'avais un truc qui devait écrire gros et qui écrivait petit.
Citoyen ou groupe de citoyens ?
Alors, citoyen ou groupe de citoyens, ou on va dire collectif. Sachant que à partir du moment où c'est autogéré, il y a une taille critique qui fait que ça ne peut pas être des collectifs énormes. Vous savez peut-être que l'association Canopée, quand elle parle de transition énergétique, se base sur un scénario qu'on appelle le scénario négawatt. Alors le scénario négawatt, c'est, à mon avis, après ça se discute, quelque chose qui se trouve entre ça... Et ça. C'est-à-dire qu'il y a une part du travail du citoyen et une part cybernétique qui est, par exemple, quand il parle de produire de l'électricité et tout, il faut qu'il y ait du réseau intelligent pour que l'électricité aille au bon endroit, etc. Donc là, on est déjà dans de la cybernétique. En face, on va mettre un autre cadre qui est... on va dire l'espace dans lequel se joue la transition. Donc ces espaces, il y a le monde, après il y a l'Europe, la France. La région, le département, les communautés de communes.
Les planètes, elles sont où?
C'est bon. Les planètes, on s'en occupe pas. Elles se débrouillent, un peu. Voilà, et en fait, après donc la commune, le quartier, et on arrive aux citoyens. En fait, le citoyen, lui, la seule chose qu'il puisse faire, c'est-à-dire que ça, ça ne demande aucun travail, il peut le faire tout de suite. C'est-à-dire que là, il est au début de la conférence, il fait rien. À la fin de la conférence, il sait ce qu'il doit faire. C'est un peu le prévu, c'était ça qui était prévu, en fait. Ou le préfet. Il peut déjà faire ça. C'est-à-dire qu'il peut déjà prendre en charge sa transition énergétique. Sa transition énergétique, on va voir en quoi elle va consister. Parce que, en fait, les autres systèmes, donc il peut agir aussi, on va dire que citoyen, commune, jusqu'à la commune, on peut être dans le collectif, on peut aller sur quelque chose comme ça. Mais globalement, on a ce sur quoi on peut agir par nos actions politiques, par nos votes, etc. Voilà. On peut agir sur la qualité de la transition cybernétique. Alors, on m'a très justement fait remarquer une fois que le monde est mis en dehors. Ben, c'est-à-dire que le monde, c'est un peu en dehors de notre portée. La seule chose qu'on puisse espérer, c'est que ces collectifs qui se mettent ici en place se mettent partout ailleurs et arrivent à faire que ça n'aille pas vers ce type de transition. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on sera dans l'un des quatre types de transition. Il faut bien comprendre aussi que plus...
C'est au-delà plus, de l'Europe. Ah, mais je suis pas d'accord.
Mais juste, bah après, ça rentrera dans le cadre du débat. Hein. Après, il faut bien comprendre aussi que par rapport au temps qui nous reste, plus on va attendre, plus on va monter dans le tableau. D'accord ? C'est l'une des raisons pour laquelle on me demande pourquoi la transition du citoyen, c'est une transition heureuse. Parce que déjà, dans un premier temps, la transition du citoyen, ça peut éviter ça. Alors c'est peut-être du bonheur par défaut, mais éviter ça, c'est déjà, quelque part, aller vers un certain bonheur. Voilà. Donc, après, pourquoi on va parler de particulièrement du citoyen? Parce que, en fait, le citoyen, comme je vous dis, c'est lui qui peut agir. Et il peut agir sur sa sphère. Donc, il peut agir comment? La première chose... Et la transition énergétique, de toute façon, ça va être ça en premier lieu, ça va être la sobriété. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de consommer comme on consomme, c'est de toute façon plus possible. Et si on veut continuer à consommer comme on consomme, on arrive de toute façon à ça. À un moment ou à l'autre. Après, on peut dire non, absolument merde. Hop, on arrive à ça. Donc, voilà. Et pourquoi ça peut nous rendre heureux? Eh bien, c'est parce que simplement, la transition du citoyen, c'est une transition qui rend riche et qui rend libre. Alors, pourquoi elle rend libre? Eh bien, parce que à 50 ans, si vous n'avez pas besoin d'une Rolex pour être heureux, eh bien, vous êtes déjà libre. Il faut bien comprendre qu'une partie de la liberté, ça se trouve là, quoi. Ne pas avoir des besoins qui sont... Des besoins enfantins, c'est-à-dire là on est vraiment dans le domaine de l'enfance, hein. Avoir une voiture plus grosse, voilà, ça me rappelle les cours de récréation quand on avait 10 ans, Voilà, c'est un peu ça. Donc déjà, cette transition nous rend libre. Après, elle nous rend riche. C'est ce que j'explique toujours à mes petits-enfants quand je dis que j'ai beaucoup plus d'argent que Bettencourt. Je suis beaucoup plus riche que Bettencourt. Alors, ils disent, oh non, quand même, papy. Eh bien si, parce qu'elle, elle a toujours besoin d'argent. Moi, pas. C'est-à-dire que si je regarde pas l'argent que j'ai, mais l'argent qui me manque, moi, il m'en manque pas. Tandis qu'elle, elle lui en manque tout le temps. Et en fait, il faut bien comprendre qu'elle, elle est pauvre, et que moi, je suis riche. Donc, la transition rend riche. Voilà. Alors, cette transition, il faut bien comprendre que elle doit aussi être... elle ne doit pas être exemplaire, mais elle peut être communicative. C'est-à-dire que le bonheur et la richesse que vous avez là, c'est super sympa parce que c'est une richesse que vous pouvez partager facilement. Et vous pouvez tous dire on consomme moins. Ça, c'est quand même vachement plus facile que de voir piquer le pognon des autres, quoi. Et donc, en fait, le fait d'être un citoyen libre, riche et heureux, ça peut faire envie. Et à mon avis, la seule chose actuellement qui puisse faire bouger les lignes sur la transition énergétique, c'est bien cette capacité à être heureux. C'est pour ça que quand on parle de sobriété, je dis à quelqu'un « Ouais, ça peut être sympa d'être sobre », ce que je propose, c'est de descendre jusqu'à sa consommation minimum, et de remonter un peu, parce qu'il y a des fois, quand on est en pleine forme, on dit « Voilà, je tiens », puis des fois on rentre, on a eu un boulot, on rentre, « Ah non, non, j'ai les toilettes sèches à vider, ah non, c'est trop dur ». Donc il faut aller que jusqu'au niveau qui va bien, même un peu moins loin, je dirais, parce que du coup vous restez heureux. Et le bonheur, c'est communicatif. Et voilà. Parce que si vous êtes là en disant « Oh, c'est trop dur, mais c'est juste, je suis un éco-guerrier de la planète », ça fait moins rêver. Enfin, moi, ça me fait moins rêver, quoi. Donc, je me dis qu'un citoyen qui fait dans transition, il doit y aller au niveau qu'il veut atteindre, qu'il peut atteindre, et il doit surtout rester heureux. S'il n'est pas heureux, il ne fait pas de transition. Ça ne sert à rien. C'est contre-productif. Si vous n'êtes pas heureux dans le cadre de la transition énergétique, c'est 10 personnes qui ne voudront pas faire de la transition énergétique. Donc il faut être. Faut y aller jusqu'à ce que vous puissiez. Et puis après, c'est un entraînement. Vous dites, bah, finalement, ça j'en ai pas besoin. Voilà. Et puis vous diminuez vos consommations, vous prenez une toute petite bagnole, une seule pour la famille, et puis vous apercevez que bon, il y a quelques contraintes, mais qu'on y arrive. Voilà. Et alors, donc la question, c'est bien beau. Mais si ça reste à ce niveau-là, de toute façon, on arrivera quand même à ça. Et donc la question, et ça c'est la grosse question, et je vous avouerai que si vous attendiez une réponse de ma part, très difficile, j'en ai pas, c'est comment faire bouger cela? Comment faire bouger cela? Alors là, moi je pense qu'il ne faut pas les nourrir. C'est la première chose. C'est-à-dire que si vous pouvez vous passer d'eux, ça va les obliger à venir vers vous. Parce qu'ils ne peuvent pas se passer de vous, en revanche. Donc vraiment, il y a à travailler, il faut travailler ces collectifs, de manière à montrer que ça fonctionne, et c'est par là que ça peut bouger. De toute façon, là, il n'y a aucune chance que ça bouge. Parce que si ça bouge, ce qu'ils vous proposeront, c'est ça. De toute façon. Donc si vous n'avez pas travaillé à ce niveau-là, vous avez ça, ou vous avez ça. Alors, moi, entre ça et ça, je ne suis pas sûr que je préfère pas ça. Mais bon, ça, après, c'est un débat tout à fait personnel. Pourquoi? Parce que finalement, ceux qui auront travaillé sur cette question-là, c'est peut-être ceux qui seront capables d'être dans ce groupe-là. Parce que c'est finalement eux qui ont le plus d'autonomie et tout, et qui travaillent du collectif, etc. Donc finalement, on pourrait presque faire un cylindre de la feuille, sachant que on a d'un côté des systèmes qui sont basés sur l'individu, et des systèmes qui sont basés sur de l'État. Je vais appeler ça de l'État, mais bon, vous pouvez.
Voilà.
Donc, j'avais pensé arrêter là.
C'est court. Hein.
C'est court, mais ça a l'intérêt, c'est que ça permet de lancer du débat. Et après, ce qui se passe, c'est que pour cette transition-là, je pense aussi qu'il n'y a pas de recette. Parce que si on fait de la recette, on revient de toute façon dans ces zones-là. Alors, quand à Canopée, on défend ça, c'est parce que, en fait, la transition du citoyen seul, ça ne fonctionnera pas. Si les collectifs-là ne se mettent pas en place, et si ces collectifs-là se mettent en place, ça va vers cette solution-là. Donc en fait, le premier pas, c'est le citoyen, les collectifs de citoyens, et après, on croise les doigts pour espérer que ça gagne au-dessus. Ça se discute, hein. Et donc c'est ce que je vous propose de faire. Oui.
Ben, moi, j'ai juste un petit souci, c'est par rapport au fait d'être dans la recherche du bonheur. C'est un truc que je trouve un peu comme un leurre, quoi. Enfin, ça me semble être un leurre. Je pense qu'on a plus besoin d'être dans la recherche du bien-être, de la bonne humeur, de l'entente en groupe, mais le bonheur, ça me semble être un espèce de...
Ouais, il y a des micros.
Ah non, c'est que comme je parle comme je parle là-dedans, moi je m'entends énormément. Ouais, je disais juste que il me semble que c'est un leurre, la recherche du bonheur. Enfin, il me semble que c'est plus le bien-être et la bonne humeur, l'entente sociale qui est une manière. Enfin, peut-être c'est un problème de terme, hein, mais dans ce que j'entends dans le bonheur, pour moi, ça a toujours un truc un peu religieux, une espèce d'atteindre un espèce de paradis. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est peut-être juste une histoire de terme, mais à chaque fois ça m'ennuie qu'on parle de recherche de bonheur, quoi.
Alors, je réponds.
Oui, ouais. Voilà.
Je pense que effectivement, je pense qu'après il y a une question de terminologie. Quand je parle de bonheur, c'est pas un bonheur individuel qui est un peu ce qu'on nous vend dans la société dans la société actuellement. On est bien d'accord que quand on parle de bonheur, bon, moi je parlerai effectivement de plutôt du lien et plutôt de faire une vie qui corresponde à une espèce de sérénité tranquille, de faire ce qu'on dans lequel on quelque chose où on est bien. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, dans la recherche de sobriété pour aller vers la transition énergétique, il y a une notion spirituelle. Quand je parle de spiritualité, c'est pas du tout religieux, ça peut être la spiritualité laïque, mais ce que j'appelle la spiritualité, c'est je me pose des questions, j'essaie de répondre à ces questions et j'essaie de vivre en conformité. J'essaie de vivre en conformité avec l'éthique que je me suis fixée. Effectivement, peut-être que le terme bonheur n'est pas le terme adéquat. La fiche est transition heureuse. Donc voilà.
Puis-je corser le terme satisfaction ?
Bonne humeur.
Gérard. Moi, je trouve ton discours très démobilisateur.
Mais je suis d'accord.
Quand je pense que tu dis à tes enfants, mais regardez, elle est pauvre, Bettencourt. Nous, on est riches. Mais l'opposition de classe va durer 25 siècles avec un truc comme ça.
Alors, je peux répondre à ça aussi tout de suite ou tu veux développer ?
J'en ai d'autres, hein, parce que j'ai d'autres répartitions que les parents un peu simplistes, cybernétiques, totalitaires. On peut avoir du démocratique qui ne soit pas cybernétique également. Enfin, je reviens plutôt à ton discours démobilisateur.
En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes dont tu parles, à partir du moment où le citoyen rentre en transition, en sobriété, ils disparaissent. C'est-à-dire que tu les nourris plus. Et c'est par ce moyen-là que tu peux arriver. Donc, tu sors du supermarché, tu les nourris plus.
Oui. Est-ce qu'on a tous les possibilités de sortir du supermarché, d'avoir un magasin paysan à côté de chez soi? Allons faire un petit tour dans le 9-3 et tu verras qu'on n'a pas tous les mêmes ressources. Donc il faut avoir une lutte globale et pas notre petit machin citoyen entre nous ici, peinard, avec vachement de ressources.
Alors, dans le 9-3, que je ne connais pas plus que ça, j'y suis jamais, allé, mais je connais des zones ouvrières du nord de la France dont je suis originaire. Je suis désolé, les types, ils avaient des revenus peanuts, il y avait de la solidarité. Il y avait de la solidarité, il y avait de la vie, et il y avait quelque chose qui pouvait se mettre en place de l'ordre du collectif.
Dans les luttes.
Dans les...
Léna, je te laisse.
Dans les zones ouvriers, beaucoup de gens avaient un jardin. Jardin, ça s'appelle tout ça, jardin ouvrier. Parce qu'ils avaient devant leur baraque 5 mètres carrés pour se planter leurs propres pommes de terre. Et c'est qu'ils les faisaient moins dépendants.
Donc c'était des
4 000. Aujourd'hui, on y plante une piscine.
Si c'était des 4 000, les 4 000 logements, c'est pas possible.
T'as 4 000 jardins ouvriers.
Un peu plus fort, si tu
veux. Vas-y, dis.
Il y a donc une loi qui a été amenée par le gouvernement français, ou qui va être amenée, je pense qu'elle a été votée, sur la transition énergétique. Il y a environ un an, le gouvernement français a fait des assises de la transition énergétique en invitant des gens tirés au sort dans différentes régions de France. J'ai été tiré au sort. Je suis allé à Toulouse, à la région, c'est des régions. On était 5 ou 6 régions, une grosse année de ça, je crois que c'était en septembre, enfin, allez. J'ai été tiré au sort parmi les gens de Midi-Pyrénées pour aller à une journée sur la transition énergétique avec laquelle, au bout de laquelle cette journée, des sujets étaient imposés, enfin pas au bout de là, des sujets étaient imposés dans la discussion, et ce qu'on allait dire pouvait être retranscrit au niveau national pour modifier, travailler, impacter cette nouvelle loi. Dans les différentes... J'étais dans la voiture, bon, par hasard. J'ai gardé tout le dossier que m'ont donné la région. Donc on s'est retrouvé environ 150 à 200 personnes à la région, par petits groupes de, ça avait été des petites tables de 6, 8 personnes, pour discuter de, pas tout ce que vient de dire Pierre, mais pas mal de choses. Et notamment ce sujet de l'espace. On était les tables et on bougeait par table. On se retrouvait des fois 8, une autre fois 8, mais pas les mêmes. C'était super bien organisé. Et on avait tous les quarts d'heure, demi-heure, non, toutes les heures, un rendu des autres régions par Internet qui avaient fait le même débat que nous au même moment et qui correspondait avec nous sur le ce que nous, on avait décidé table par table, quasiment. C'était une interaction pas possible au niveau... Alors, je ne sais pas si c'est de la cybernétique, mais c'était super bien torché de la part de la région. Donc, à partir de là, on devait discuter et apporter des bases pour que notre gouvernement, la ministre de l'époque... Il y a un an et demi, le ministre de l'écologie, on va dire, c'était du flot, peut-être. Et dans une des questions, c'est pour revenir un petit peu à ce que tu as montré. Alors, après, on s'est posé des questions. Pourquoi c'était nous qui avions été tirés au sort? Pourquoi moi, j'étais tiré au sort? Je suis plutôt partisan. Après, on a pas compris, mais on s'est... Après, je finirai tout. C'est long. On a compris que sur les 5000 qu'ils avaient tirés au sort, j'ai demandé à l'office de cette association, cette entreprise qui avait été chargée de nous tirer au sort... Honnêtement, je lui dis au mec, mais tu tires au sort par hasard? Il me dit oui. Bon, et comment j'arrive là, moi qui suis. Ça vous intéresse? Vous allez venir? Mais je dis bien sûr que je vais venir, moi ça m'intéresse. Donc après, j'ai appelé Canopé, j'aurais dit j'y vais en mon nom, j'y vais au nom de Canopé. Les copains de Greenpeace, il y a eu des discussions, eux ne voulaient pas y aller en tant que Greenpeace, même en tant qu'adhérent de Greenpeace. Ils étaient devant la région à Toulouse pour nous faire la pub de ne pas dire n'importe quoi et de savoir pourquoi on était là. Tout ça, c'est super intéressant. C'est le morceau démocratique qui est important là dans ce que je suis en train de montrer. Les questions au sujet de l'espace. À un moment donné, il y a un questionnaire. Où c'est que vous voyez votre possibilité d'intervenir en tant que citoyen? Et il cite ça. Je ne sais pas si tu as eu le... Il cite exactement ça. Et alors, moi, sur mon questionnaire, je mets... Citoyen, il n'était pas marqué, mais ça commençait à la première institution. Mairie, commune. Et après, ça finissait Europe. Il n'y avait pas monde. Tu as fait raison de ne pas le mettre, parce que ça va être difficile aux Chinois de ne pas leur dire d'acheter les bagnoles. Mais donc, le monde était exclu. Et donc, la plupart des gens disait bah, c'est la région et l'Europe, on est invité par la région. C'est la région qui va être co-responsable de notre avenir énergétique. Et les autres disaient la commune, c'est pas la peine, ils n'ont aucun poids, la communauté de communes n'a aucun poids, enfin, c'est des, en gros, ils sont bons à rien, c'est même pas la peine qu'ils existent, le département, il n'existe plus, ça va être le cas. Donc il nous reste l'État, en gros, l'Europe, c'est des bons à rien, il nous restait la région et la France. Et là, dans la discussion qu'on avait avec les potes, là, on s'est retrouvé en fait que des gens quasiment convaincus, plus un ou deux copains d'Areva, c'est-à-dire de un bon lui, mais qui avaient des bons discours sur pourquoi l'uranium était important, etc. Et, mais c'était super intéressant. Et démocratiquement, je crois que c'était hyper intéressant d'y aller et de voir qu'on pouvait discuter avec des gens et ressortir heureux, gonflé. Moi, je suis parti avec une jeune femme de Nocelles. On est parti en covoiturage. On est parti en covoiturage. Et elle m'a dit, moi, j'y connais rien. Je suis femme de ménage. Pourquoi ils m'ont appelé, moi? Mais je lui dis, pas parce que tu as ton mot à dire pour en discuter de ça. C'était le début de ce petit citoyen qui allait s'autogérer avec d'autres. C'est peut-être pas le cas. On s'en fout si c'est pas le cas. Mais au moins, on a été remonté pendant une journée à la région pour discuter de ça. Qui a été au courant qu'il y a eu des assises proposées par le gouvernement à la région? J'en sais peut-être un ou deux. Mais moi, j'en ai parlé un petit peu à Canopée. Dès qu'ils m'ont appelé, j'ai dit, comment, est-ce qu'il y a pas un... Il y avait déjà des textes de Canopée qui circulaient sur l'auto, sur la suffisance la énergétique, la transition énergétique, donc ça pouvait, tout pouvait rentrer. Je pense qu'on a les moyens, en tant que citoyen, d'aller vers un moment démocratique de notre vie. Et quand Plassard, ou même dans le film, nous montre des moments de démocratie, qui sont des moments où nous, partie droite de son exposé, on a des moments où on peut y aller. Et il faut y aller. Donc je suis d'accord avec Zine aussi, le bonheur, moi je le veux tous les jours, mais il faut foncer. Le souci, c'est comment on arrive à parler avec nos copains du monde pour qu'on ne fasse pas... nous les donneurs de leçons, en disant ben, nous on s'est assez gavé, à vous de vivre dans la misère, parce que c'est un peu salaud quand même. Donc je pense qu'au niveau des, et pareil, pas foutre sur la gueule des autres potes, par le biais de trois bombes qui tombent, en disant démocratiquement on a le droit d'envoyer des bombes gentilles, c'est pas forcément des bombes d'ailleurs, hein, ça peut être des supermarchés, ça peut être, on a envahi l'Europe de l'Est de nos supermarchés, comment on fait pour dire pour prendre la place, pas pour leur dire, pour prendre la place et pas faire de délégation de pouvoir, pour aller dire aux gens qu'on élit, on ne vous élit plus, c'est nous qui y allons, et on portera votre voix, ou on va s'arranger pour que ça se passe mieux démocratiquement. Et je pense que, je finis, je pense que les moments proposés par un gouvernement pour aller discuter, on devrait mieux les investir. Alors on se fait avoir, évidemment, la loi, et ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et on est rentré dans ce totalitarisme, ce que montre Plassard aussi, dans les paquets, où tout est prévu, tout est construit avec des normes, ces normes normées, et nous on rentre dedans, et voilà, vous devez voter, payer, être heureux, avoir du bonheur, ne pas en avoir, être pauvre, être riche, tout est marqué. Non, on est là où je viens en question pour combattre aussi tout ça et donner nos normes à nous qui ne sont plus des normes, qui sont la joie de vivre.
C'est pas parce qu'il y a un débat citoyen que c'est démocratique. Tout dépend du pouvoir décisionnel de ces trucs-là. En Belgique, ils ont une assemblée citoyenne de plus de 1000 citoyens aussi. Mais il n'y a aucun pouvoir décisionnel. Donc ce n'est pas la démocratie, ça s'appelle la dictature douce. Il faut faire gaffe avec les mots.
Ah, pardon. Un, deux.
C'est Martin aussi là-bas.
Pardon, excuse-moi Martin, je n'avais pas vu.
Sont partis en claquant la porte. J'ai entendu ça à la radio en disant que c'était de la pipo. Maintenant, les choses ne se font pas en un jour et ça. Voilà, ça fait prendre la conscience de discuter, même si c'est pas encore ça. Moi, je voulais en revenir à ton histoire de Bettencourt parce que tu peux avoir pas d'argent et quand même, t'en as pas assez, quoi, tu vois.
Ah, ça. Mais on est bien d'accord. Et on est bien d'accord. Non, mais parce qu'il y a les pauvres qui ont de l'argent, mais il y a surtout les pauvres qui n'ont pas d'argent. Et il est bien évident que quand on parle de transition énergétique, c'est dans la mesure de ses moyens, de ses possibilités. Mais il y a une chose qui va arriver aussi, et ça répond un peu... en partie à la question. Je sais pas, vous n'avez pas entendu, il y avait à France Culture, c'est il y a un ou deux midis, quelqu'un qui a parlé de la fin du travail. Pas entendu ça, et de ce qui se fait en horizontalité et en verticalité. En ce moment, les grosses sociétés flippent réellement parce qu'il y a des choses qui se mettent en transversale qui leur échappent. C'est-à-dire que, par exemple, le covoiturage, tout ça, ça met en place des systèmes qui ne les font plus vivre. Et en fait, quand j'ai proposé ça, il est bien évident qu'il y avait une part de provocation qui est aussi de lancer du débat et tout. Mais ce que je considère, c'est que, en fait, on est dans un système. Donc on a quelque part, on va appeler les forces de l'argent. On a les gouvernements et on a les citoyens. Les citoyens disent, eux, il faut qu'ils arrêtent de nous piquer du pognon. Les forces de l'argent disent, eux, ils doivent nous permettre de rien changer. Et eux, ils disent, eux, tant qu'ils nous demandent rien, on ne fait pas grand-chose. Et en fait, on est dans un cercle, ce que j'appellerais une étreinte fatale, on est dans une étreinte fatale où on dit, c'est l'autre qui doit changer. Le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous comptez, la seule chose sur laquelle vous puissiez agir, c'est vous. Donc en fait, la seule chose que vous puissiez faire, c'est sortir de ce cercle, et ce cercle se déséquilibre. Et forcément, eux, ils vont dire, oh, mais il faut regagner du pognon. Et il faut trouver mon poste pour être élu. Et forcément, si vous changez, eux changent. Et c'est comme ça que ça peut bouger. Sur la question des grands soirs et des grandes organisations qui vont changer le monde, j'attends. Si un jour vous me présentez une organisation, un parti politique qui est capable de changer quoi que ce soit, je dis ok, bingo. Pour l'instant, je suis désolé, mais des partis politiques qui s'occupent de la transition, etc. et tout, permettez, là j'en vois pas beaucoup. Et quand je dis pas beaucoup, c'est pour laisser à quelques-uns l'espoir d'être dans les. Oui.
À partir de combien de citoyens qui partent du cercle?
Non, mais en fait, c'est la vraie question. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est pas de dire. Attendez, ce soir, je vous dis pas, les petits gars, on tient la solution, demain, voilà, ils sont tous ramés. Ça marche pas. Le problème, c'est que je me dis que la seule solution, elle est là. Je vous garantis pas que ça va marcher et qu'on va pas arriver à ça. Hein. Il faut qu'on soit bien clair. Je vous ai pas promis ce soir qu'on allait éviter ça. On est bien d'accord. J'ai simplement proposé que à partir de là, on ait une petite chance d'éviter ça, sachant que en plus, si on remonte jusque là en tant que citoyen, c'est déjà énorme. Mais il vous reste ça. Or, le problème climatique et le problème de l'énergie, c'est pas ici ça que se passe. Hein. C'est bien sur tout l'ensemble. C'est bien pour ça que j'ai mis monde et que je l'ai extrait de notre capacité d'emprise. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres collectifs de citoyens qui se mettent en place dans le monde, et ben de toute façon, on arrive à ça quand même. Parce que je vous rappelle que nous sommes 50 millions. Et que sur les 50 millions, les gens qui sont engagés dans la sobriété, voilà.
Mais on est tous des petits colibris.
On est tous des petits colibris, mais avant qu'on se fasse, avant qu'on échappe à tous les gros vautours qu'il y a, il va falloir qu'il y ait beaucoup, beaucoup de colibris.
Mais en même temps, le dénouement, ça rend extrêmement créatif.
Comment ?
Quand t'as pas.
Ouais.
Pendant combien de guerres, et l'humain, il est d'une créativité extraordinaire. C'est-à-dire, tellement obligé d'inventer, qu'il est d'une ressource extraordinaire. Donc, en fait,
on est des intelligents qui s'ignorent.
Voilà. Oui.
Je
peut-être sortir hors d'à-propos, parce que ce que j'ai retenu, c'est entraînement militaire, il faut travailler. Et en voyant bazar là, j'ai noté entraînement, je sais pas pourquoi, militaire, il faut travailler, plus, plus, plus. Pour moi, le travail, c'est la torture. Il faut jouer sur l'humain plus, plus, plus par rapport à la théorie. Voilà mes notes. C'est ce que j'ai noté de ce qu'on m'a dit, mais je ne peux plus faire les liens. C'est venu. Si je l'ai noté, c'est que ça a été dit. C'est hors contexte. Ça veut dire que quand je revois bazar, là, je suis en France. Je ne suis pas française.
Oui.
Donc du coup, moi, l'Europe, ça me parle. Mais pas plus que ça non plus. Quand tu as dit le monde, pour moi, ça reste encore aussi petit. Donc je voyais encore au-delà. Donc comme quoi, on parle de militaire, de travail, donc on se réfère à l'humain. Ouais, bon, d'accord.
Je ne semble pas avoir parlé de militaire. Et il ne faut pas avoir parlé de travail.
Entraînement.
J'ai parlé d'entraînement.
Tu as parlé de militaire,
oui.
C'est quand on arrivera au fin, à la fin des ressources.
Voilà.
On préservera le peu qui reste
pour les militaires.
Voilà.
Ouais.
On va sortir.
Voilà.
C'est la réalité.
C'est quand même important à relever. C'est à quoi on va arriver, quoi, si on continue avec ce qu'on a.
Mais avec cette méthode, on peut sortir n'importe quel mot et tenir le discours inverse de ce qu'on a à dire.
Oui.
Là, c'est pas du tout le propos, quoi.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que on est quand même amené à ça si on va vers certaines modes.
Là, je suis désolé, j'ai aucune réponse parce qu'en fait, j'ai pas compris le texte.
Non, mais j'ai pas encore posé ma question.
Je crois que Joël a envie de discuter. Si tu peux la formuler de manière très courte, je veux bien y répondre. Mais...
Oh là là, donc
Joël,
du militaire.
Oui, bien sûr.
Totalitarisme.
Absolument.
T'as pas du tout parlé des mouvements des villes en transition. Qu'est-ce que t'en penses?
Les villes en transition, c'est typiquement. Les villes en transition ne sortent pas ex nihilo. Je veux dire, il n'y a pas une ville en transition pink. Oh, une ville en transition. C'est-à-dire, il y a des citoyens qui, à un moment, se mettent en place pour mettre la ville en transition. Et ça part de toute façon de citoyens qui décident que leur commune, leur ville, leur quartier va passer en transition. Bon, moi, je suis absolument d'accord avec le principe des villes en transition, sachant que il faut qu'on évite trop cybernétique. Et c'est dans ce sens-là où la ville en transition est intéressante, c'est que justement, c'est des solutions locales qui sont faites avec des gens localement. Et ça, pour nous, à mon sens, c'est une partie de l'avenir.
Il faut parler dans le micro ? Dans ton schéma, là, où est Michael, qui était là cet après-midi, qui travaille au Pays Outhénois, qui accompagne les collectivités pour isoler les écoles au niveau énergétique, qui accompagne les collectivités pour, par exemple, il y a un projet d'éolien citoyen autogéré à 50%, on va dire, à Conches-la-Grand-Ville. Il accompagne des projets comme ça, mais il accompagne en tant que Pays Outhénois, il est fonctionnaire. C'est pas un fonctionnaire.
Alors dans l'espace, on va dire qu'il est quelque part ici, et dans la pyramide, dans les types de transition et dans la transition cybernétique démocratique. Parce que l'un des moments, ce en quoi le moment est fort actuellement, c'est que c'est le moment où on peut se réapproprier l'énergie. Et en tant on peut récupérer l'énergie. C'est ce qu'a expliqué Thomas cet après-midi, qui était vraiment intéressant. Il disait que produire de l'énergie, chacun produire de l'énergie, plein de petites sources de l'énergie, c'est le moyen de récupérer de l'énergie. Les éoliennes, à partir du moment où elles sont citoyennes, c'est-à-dire que les retombées sont pour les gens qui vivent sur le lieu, que ça débouche sur des économies d'énergie, parce que du coup, on considère qu'on va on va produire de l'énergie, et que du coup, on va se poser les questions d'économie d'énergie sur le lieu, sur l'espace dans lequel on vit. C'est pour ça que, bon, à Canopée, on a des débats sur les éoliennes, parce que, bon, Canopée, c'est un groupe de personnes et on ne pense pas tous de la même manière. Il y en a qui pensent que l'éolienne, quelle que soit l'origine, il faut en mettre parce qu'il faut la transition énergétique. Et ils pensent que cette transition énergétique va faire qu'on va faire des économies. Voilà. Il y en a d'autres qui pensent que si on met des éoliennes en ce moment, on va rajouter de l'électricité, on va rajouter de l'énergie, et donc on va en consommer encore plus. Donc c'est contre-productif. Et il y en a d'autres qui disent, on va attendre, on va mettre des éoliennes, mais que des éoliennes citoyennes. Voilà. Et après, il y a un groupe qui dit, nous, on veut que des éoliennes par individu, sur chez lui, sans aucune éolienne. Alors, quand je parle d'éolienne industrielle, c'est l'objet industriel. Hein, je parle de l'objet industriel. Voilà. Donc, on voit que chez Canopée, il y a plein de démarches. Ça sent que, de toute façon, globalement, le gros de l'association pense qu'on va devoir passer à de l'éolien de forme industrielle, mais si possible de financement citoyen.
Je pense que tu as dit quelque chose d'important, c'est à qui appartient l'énergie. Parce que si l'angle ça reste dans le domaine capitaliste, tu peux sortir d'un petit bout et innovatif comme le capitalisme peut être, il va te rattraper comme il a rattrapé les magasins bio. Hein? Aujourd'hui, tu n'achètes plus dans un petit magasin bio épicerie du coin, tu as des chaînes capitalistes avec des champs en monoculture bio.
Il faut travailler.
Sauf que...
Pour moi, des réflexions comme ça, sans qu'on parle à qui appartient le moyen de production, c'est on part dans le vide.
Dans ton schéma, quelque chose me gêne également, et ça ne me surprend pas. Tu vois le citoyen qui s'en va, la flèche là qui part vers la gauche, le citoyen. Voilà. Ouais. Et là, tu nous fais un truc en disant « Oh, le politique qui pense à sa réélection !» Mais moi, c'est au niveau national, mandat unique.
Comment ?
Au niveau national, s'il y a que... On impose le mandat unique, il ne pensera pas à sa réélection. Donc mon problème, ce n'est pas de sortir, c'est de changer le système. Tu comprends ?
Oui, là, tu tournes en rond.
Le système, tu le changes parce que tu le déséquilibres.
Oui, parce que tu dis le politique là qui part de l'autre côté dit ah là, il faut que je le garde sous mon contrôle parce que j'ai envie d'être réélu. Mais si je passe à une 6e République où il n'y a qu'un mandat unique, le problème ne se pose plus. Donc il y a un travail au niveau national, européen, et j'étais d'accord avec Evan, mondial. C'est intéressant. Regarde les forums sociaux mondiaux où là il y a des créations extraordinaires. Donc j'aime pas tellement qu'on écarte le problème monde et là il y a un moyen d'action également. Pour bien marcher, il faut du local et du global. Il faut les deux jambes.
Oui, tout à fait. Quand je propose ça, c'est un schéma qui, pour sortir du cercle, pour que ce cercle s'arrête, il faut qu'il se déséquilibre. Or, les seuls qui soient capables de faire déséquilibrer, c'est les citoyens. Et quand tu me parles de 6e République, moi je veux bien la 6e République, mais qui actuellement est capable de mettre en place une 6e République en France ?
Ça va venir. Oh. Regarde historiquement l'évolution. Je ne vais pas me contenter de mes toilettes sèches. Je vais m'emmerder.
Il y a un test psychologique qu'on fait faire souvent. C'est une figure géométrique qu'il faut tracer sans lever le crayon. Et en fait, on s'aperçoit que il faut sortir du cadre pour réussir à faire quelque chose. Alors là, je pense, enfin moi je le lis comme ça, ce schéma, tu sors du cadre pour pouvoir le changer. Parce que si tu restes toujours dans le cadre, tu es toujours formaté, voilà.
Oui, moi je voulais réintervenir sur le débat que Gégé avait lancé, modifier l'État. je trouve que c'est... Comment dire ? Le débat, il est difficile parce que... on est quand même dans une situation où les classes politiques se reproduisent à l'intérieur d'elles-mêmes, que ce soit dans leur formation ou dans leur dynastie, et qu'effectivement, un contre-pouvoir s'impose. Effectivement, s'il ne vient pas du bas, je ne pense pas que le haut va faire un contre-pouvoir contre lui-même, actuellement.
Mais en fait, pour répondre aux questions sur l'entre-soi des classes dirigeantes, sur le capitalisme, etc., c'est que ma position, mais maintenant c'est bien pour ça que je l'ai proposé de cette manière-là, pour que ça suscite du débat. C'est que on les nourrit par notre inaction. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est bouger, se déplacer, créer un parti politique qui puisse mettre en place la 6ème République, why not ? Mais par exemple, bon, là, c'est parce que j'essaie de me... Bon, Gérard, j'essaie d'être bien avec lui, quand même. C'est quelqu'un que j'aime bien. Bon, vous avez des choses comme TAFTA qui sont en train de se mettre en place. Lire TAFTA, c'est quelque chose qui va se mettre à ce niveau-là. D'accord ? Et contre lequel il faut absolument lutter. Et TAFTA, c'est quelque chose qui va permettre aux sociétés d'attaquer l'Europe, la France, la région, le département, la commune. Et on ne sait pas à quel point le citoyen individuellement, mais un jour, pourquoi pas ? C'est-à-dire le citoyen qui ne permettra pas de faire gagner de l'argent à ces gens-là, il faudrait qu'on... Donc, on sort de ce cercle, mais en même temps, on n'oublie pas qu'il faut être dans une lutte contre certains, contre des points précis. Je pense que TAFTA, c'est typiquement un des points contre lesquels on peut lutter, contre lequel il faut lutter. Et à partir de ces points-là, on développe une autre manière de faire de la politique, une autre manière de penser le politique.
Tu peux dire rapidement ce que
TAFTA. TAFTA, c'est le traité entre les États-Unis et le transatlantique. C'est un traité qui va permettre aux grosses sociétés de laminer la norme sociale, de la norme écologique, etc. Bon, un exemple, c'est au niveau du tabac. Vous avez ces Philippe Maurice qui attaquent, c'est quel pays ?
L'Australie et le Paraguay.
Voilà, attaque l'Australie et le Paraguay parce qu'il y a une politique de soins et de santé qui fait qu'on décide d'attaquer les industries du tabac. Or, comme ça va contre leurs intérêts, ils attaquent l'État. À savoir que Veolia, par exemple, a attaqué l'Égypte parce que l'Égypte voulait faire un salaire minimum et que du coup, ça réduisait les marges de Veolia. Et Veolia attaque le gouvernement égyptien parce qu'il veut mettre un salaire minimum. Il faut bien comprendre que ce traité, c'est une catastrophe et c'est en train de se faire de manière totalement opaque. Néanmoins, je pense que le citoyen qui sort peut se préoccuper de TAFTA. On est bien d'accord que le citoyen qui sort, il ne sort pas en disant... parce que le citoyen qui sort et qui ne se pose pas la question du collectif, de toute façon, il se retrouve là. D'une certaine manière, son truc, c'est je me débrouille, je survis et je me retrouve dans les 600 millions qui vont survivre. Donc c'est bien pour ça qu'on est bien d'accord que ça, c'est bien, c'est le pas, c'est, je dirais quelque part, c'est la réaction initiale, c'est la réaction initiale qui peut démarrer un processus, mais si c'est pas relié au collectif, on est d'accord que ça peu d'intérêt.
Par son travail. Bouton.
Alors moi, en fait, ça me fait toujours un peu bizarre quand on oppose le citoyen au politique, parce que les partis politiques sont formés par les citoyens, rien n'empêche aucun citoyen à se présenter à une élection municipale, ou plus, on pense peut-être, voilà. Et les élus, surtout, voilà, ce sont des citoyens à la base, en fait, et on peut chacun s'engager dans un parti qui nous plaît, ou créer un parti pour faire changer des choses. Ça me pose les deux, ça me fait toujours un peu...
Est-ce que j'ai opposé les deux? Donc je voulais savoir, parce que si j'ai opposé les deux, c'est que je me suis fourvoyé. Un peu, d'accord. Donc je me suis fourvoyé. Donc la question du politique, c'est le citoyen peut effectivement se rentrer dans un parti politique qu'il considère être un parti politique efficace pour agir à ce niveau-là. On peut, d'une certaine manière, penser que Europe Écologie, par exemple au niveau de l'Europe, sur les questions des OGM, etc., font un vrai travail et que l'information qu'ils nous donnent par rapport à ce qui est en train de se développer et se mettre en place en Europe est un bon travail. On est d'accord. Ceci dit, on s'aperçoit que ces partis politiques, et on voit bien quand même avec les deux dernières années qu'on a passées, le fait de vouloir changer par l'intérieur, parce que c'est ça le truc, c'est on change par l'intérieur, font que quand on veut changer par l'intérieur, on prend la manière de penser du système dans lequel on est. Or, le système de pensée dans lequel on est, c'est celui-ci. C'est un système cybernétique. Et donc, du coup, on s'éloigne de ça. C'est pour ça que on peut investir les partis politiques, mais pour avoir été dans plusieurs partis politiques, c'est quand même super difficile. C'est quand même super difficile. Il y a des choses qui se mettent en place qui font que quand on veut s'exprimer, quand on veut sortir une idée... Bon, je peux en parler. J'étais à la Ligue communiste révolutionnaire quand j'avais 20 ans. J'y suis resté 15 ans quand même. Donc j'ai eu le temps quand même de... Voilà. Dans les années 80... J'étais dans une tendance, alors je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais bon, il y avait des tendances. Moi, j'étais dans une tendance qui disait il n'y aura aucune révolution en Europe parce que l'ouvrier européen est un exploiteur. Et à partir du moment où c'est un exploiteur, il pense comme un capitaliste, c'est un capitaliste, et donc il veut pas changer le système parce qu'il a une raison dans le capitalisme. Ma parole, mais je me suis fait descendre, laminer, social, enfin pas social trade parce que ça n'existait plus à l'époque déjà, mais enfin bon, j'étais complètement en dehors du camp. Si vous exprimez, dans un parti politique, si vous exprimez une opinion différente, vous êtes devenu un ennemi. Vous devenez un ennemi. Donc moi j'attends le parti politique qui sera capable d'entendre des différences, qui sera capable de faire des actions à partir de choses, d'idées différentes. On prend Canopé. Bon, Canopé, je ne suis pas là pour faire de la pub pour Canopé. Mais au conseil d'administration, vous avez des gens qui ont plein d'opinions politiques différentes. Je vous assure. Vous avez, ça va, on va dire, du centre vers l'extrême gauche, libertaire, des gens qui pensent vraiment. Enfin bon. Enfin, vous avez vraiment tout un panel de gens. Ben, on arrive à travailler ensemble parce qu'on a évacué la question du t'as raison, t'as pas raison, t'es politique, c'est pas politique. Et moi, j'attends le parti politique qui soit capable de faire ça. Si y a un parti politique qui est capable de mettre ça en place, bingo, j'y vais.
Sauf que, du coup, il y a un consensus à Canopé qui fait qu'on ne peut pas tellement aborder des questions politiques. Et ça, tu ne peux pas dire le contraire. J'ai assisté à une assemblée générale. Je veux dire, non, ça, c'est trop politique, on va perdre notre âme.
Alors que tout est politique.
C'est normal, parce que vous arrivez à une sorte de consensus.
Oui.
Non, moi je le prends pas comme ça. C'est pas une histoire de consensus. C'est politique, on n'en parle pas. Parce que, attends, avec le projet de l'énergie, justement, une attitude citoyenne, c'est une attitude politique. C'est la politique, c'est gérer la cité. Donc, on fait tous de la politique.
Non, je pense que Canopé ne veut pas se ranger auprès d'un parti politique en disant ben, on prend la même position, là, tiens, pour ça, on prend la même position que le parti. Voilà, c'est Canopé parle en tant que Canopé. avec toutes les opinions qui sont débattues.
Par rapport à TAFTA, par exemple, Canopé est très clair.
Ouais.
C'est la taille de l'organisation qui fait ça. Au-delà de 450, ça n'est plus gérable de la même façon. Donc les idées s'imposent. Alors que là, Canopé, vous êtes combien? 140, 150? Voilà. Mais au-delà d'une certaine taille, un organisme ne fonctionne plus de la même façon.
C'est-à-dire qu'il fonctionnera comment?
C'est mécanique.
Non, mais il fonctionnera comment?
Mais il fonctionnera autrement.
Dépendant des partis politiques ou indépendant?
Non, mais ça n'a rien à voir. La partie politique, c'est une organisation.
Mais des instances citoyennes, d'ailleurs. Mais,
si, c'est une question de taille. Oui, au-delà d'une certaine taille, ça ne fonctionne plus pareil.
Oui,
bon. Je pense qu'on peut, sans aller vers les partis politiques, tu as cité quelqu'un, a cité le cas de Comps-la-Grandville, où il y aurait peut-être des éoliennes qui pourraient se mettre en place dans un cadre éco-citoyen, collectif. La mairie de Comps-la-Grandville doit bien avoir son mot à dire quelque part dans cette position. On a vu les copains de Grigny intervenir un jeudi en question, où ils expliquaient qu'à Grigny, en tant qu'organisation politique, ils avaient fait quelque chose de la ville, un genre de participation collective, des questions qui reviennent à la ville, aux citoyens. Ailleurs, que ce soit n'importe quelle commune, ce qui serait déjà pas mal, je pense qu'on peut, sans investir par un bulletin de vote, dire « je suis élu à la commune », mais avant, dire j'ai envie avec mes copains de Canopé, d'attaque, de tout ce que vous voulez, des faucheurs volontaires, dire à la commune, mais mettez-nous à Rodez, à Marcillac, où vous voulez, des terrains communaux qui feraient l'agriculture bio. Comme ça, on ne tomberait pas, comme dit Léna, à des 500 000 hectares en Pologne, en Tchécoslovaquie, qui nous inondent de produits bio et qu'on n'en a rien à foutre. Il vaut mieux qu'ils soient faits à Marcillac, si c'est pour les consommateurs de Marcillac. Donc, ça ne serait pas idiot, peut-être, de penser que, politiquement, sans investir forcément un conseil municipal en étant élu dedans, pousser les élus à aller vers une sorte de ce que tu proposerais, de dire on va sortir, mais essayez de sortir avec nous. Si vous êtes, je sais pas quel est l'élu de Comps-la-Grandville, je le connais pas, mais il est peut-être très bien, et dire on l'a fait cette éolienne à Pruine, puisque ça se reparle un peu partout, sur un Mandalaza qui s'en parle, avant d'être contre ou d'être pour, ouais, on en discute. Pas que le petit groupe qui doit discuter des éoliennes de Mont-de-Lazac, puisque le sujet des jeudis en question, ça avait été, est-ce qu'on décide de parler des éoliennes? Ah non, jeudi question, si on parle de ça, on va se faire massacrer. Ah non, il va y avoir les pour, vers les contre, on va se faire encore un jeudi en question. On risque de se faire, pas encore, on risque de se faire un jeudi en question qui va être conflictuel, et c'est pas ça qu'on veut au jeudi en question. On veut plutôt qu'on parle de la transition énergétique et des énergies. Donc qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller voir la mairie de Mont-de-Lazac, c'est quoi?
Salle-la-Source,
et de leur dire, ouais, peut-être, ça ne serait pas con de mettre des éoliennes, mais c'est vous le porteur de projet, c'est la mairie de Salle-la-Source, comme vous portez maintenant le projet de la petite Plassard, on a parlé des petites hydrauliques, qui sont interdites, ouais, parce qu'il y a 1789, là, on peut pas faire ce qu'on veut, et voilà, on prend tout ça au compte de la mairie, c'est les citoyens, en plus du conseil municipal, qui viennent abonder, discuter avec le conseil municipal, mais pour ça il faut réinvestir les conseils municipaux, discuter avec le maire, discuter avec les conseillers municipaux, parler de ce qu'on veut, là où se semblerait, se prendre les décisions. Je pense qu'il serait plus intéressant, enfin il serait autant intéressant de sortir en étant faucheur volontaire, à sortir du supermarché, tout ça, c'est des associations qui existent, et à plein d'autres, à Canopé, à tout ce que vous voudrez, et en même temps aller voir, comme peut le faire Canopé ou d'autres, aller voir, je ne suis pas Canopé, j'y suis, mais sans avoir de position dedans, aller voir les conseils municipaux, voir la région, voir la communauté de communes, de Rodez, de Marciac, et dire, voilà, moi je suis faucheur volontaire, je veux, et vous l'avez signé sur une commune, qui n'est pas un OGM, qui n'est pas maintenant les nouveaux OGM qui arrivent sur le marché, j'en veux pas, et on se démerde, et on fait des champs bio, vous récupérez des champs, du terrain, où on peut faire du maraîchage, on peut faire de l'agneau, tout ce que vous voulez, et on le met à disposition des nouveaux, ou des anciens d'ailleurs, exploitants, qui viendraient faire du bon boulot. Mais on se doit d'aller au-delà de notre petite intérieur tout seul, là, et d'aller voir ces gens. Ils y sont actuellement. On va quand même pas les squeezer. On serait quand même fou de dire le maire, c'est un con, et on va pas y aller.
Ils sont en début de mandat, quand même. Donc, les projets, on peut les leur proposer.
Ben, c'est la moindre des choses, il me semblerait.
Le maire, il n'a pas la maîtrise foncière des terrains. Hein.
Eh bien, il faut qu'il l'apprenne. Il faut qu'il l'apprenne. Il a bien la maîtrise pour décider s'il y a une zone industrielle avec un Leclerc qui s'y met quand même. Ah non, 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 je ne veux pas entendre ça, moi. Il a, s'il décide de la... De... Ah non, non, non.
C'est la réalité.
Non, non, la réalité, c'est que s'il veut une zone commerciale avec des Leclerc et des supermarchés, il a la possibilité de le faire. Donc il a la maîtrise du terrain qu'il qui appartient à sa commune.
La terre agricole, elle est gérée par les syndicats agricoles.
Mais,
je sais ça, non
mais,
tu ne vas pas dire que c'est le maire qui le gère.
La terre agricole peut être gérée. La terre toute seule. Le terrain peut être préempté par une commune.
S'il est à vendre.
Point barre. Il y met ce qu'il y veut dessus. S'il veut décider que c'est une zone artisanale, il décide que c'est une zone artisanale. S'il veut mettre des paysans, il met des paysans. Si. Si. Ça, c'est la démocratie totalitaire. Le fait de
la
dire...
Démocratie.
Non, non, totalitaire.
C'est la transition totalitaire.
C'est la démocratie totalitaire de dire « Ah ben, on peut pas mettre des paysans sur notre commune parce que c'est pas de notre ressort, c'est la FNSEA et la SAFER qui le gère. » Non, 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 non. Mensonge.
Ah bon. Point.
Bonsoir, Président Lequel. Il a fait référence à Grigny. Pour ceux qui n'étaient pas là, Grigny, c'est une ville de 10 000 habitants.
Tout le budget d'investissement est entièrement décidé en assemblée générale par la population. Tous les projets sont définis par les comités de quartier et en assemblée générale, ils décident, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Le maire et l'équipe municipale sont là pour enregistrer et appliquer.
La démocratie.
Voilà. On n'en est pas encore au mandat destitutif, etc. Mais c'est assez beau ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il était venu, on est allé assister d'ailleurs à ces assemblées générales à Grigny. C'est vraiment impressionnant, voir la participation active des citoyens.
Il a été réélu ?
Non.
Non. Et non.
Mais il continue à fonctionner comme ça.
Non, 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 mais... Non mais ce que je veux dire c'est que on est bien d'accord que c'est une grande partie là qui doit ça investit, ça travaille et ça fait du collectif. Parce que si on s'intéresse pas au collectif, si on veut pas être dans sa commune, effectivement ça tombe.
Il était quand même à son cinquième mandat pour pouvoir organiser l'autogestion.
Alors il m'a taclé, mais l'opposition a dit qu'il garderait ce fonctionnement. Dans un premier temps, l'opposition disait « Ce maire est incapable de prendre des décisions, c'est pour ça qu'il confie ça au quartier.
Et »
Et à la fin, ils ont dit « On gardera ce système-là si on gagne. »
Et ben, on est bien dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si le citoyen bouge, là, ça bouge.
Il est content. Il est en accord avec ce qu'il a démontré.
Il dénigre
Il me semble qu'on ne pourra pas se passer, si on parle de transition énergétique, de parler de la question de la répartition des richesses. Et parce que c'est souvent là où... Enfin, les FA, là, les... Comment c'était, ça voulait dire quoi, ça ?
Force de l'argent.
Les forces de l'argent qui polluent et qui vont... tant qu'on les laissera au pouvoir, donc... Enfin, moi j'ai du mal à me projeter dans la sobriété individuellement en me disant bon ben, je vais faire attention individuellement si derrière j'ai pas quelque chose qui me pousse et un projet politique qui me pousse avec qui touche à la question de la répartition des richesses, qui touche à toutes ces questions là qui sont, il me semble, essentielles quoi. Sinon j'aurais du mal.
Et on ne parle pas de l'accroissement de la population. Nulle part on en parle. Pourtant, c'est peut-être la première des choses à voir, c'est l'accroissement mondial de la population.
Je vais en parler. Je vais essayer de...
Oui, ça rejoint un peu la remarque.
Oui, ça marche. C'est bon.
Ah oui, ça marche, oui. Non, c'est parce que je reviens... Je reviens sur la question de, effectivement, du taux de population et aussi à quelle échelle collective, en termes de nombre, une action peut être efficace. Alors ça me rappelle deux choses. C'est, je pense, l'année dernière ou l'année avant, que pour la première fois dans l'histoire du monde, la moitié de la population vit en ville. Ce qui est strictement effrayant au niveau des dégâts environnementaux. Et, oui, et aussi de la création de lieux où les inégalités sociales se creusent. Parce que c'est sociologiquement démontré depuis déjà longtemps. Et ça me fait un peu penser à... D'abord, j'étais formateur en dynamique de groupe, à la loi des éléphants. C'est-à-dire que quand une horde d'éléphants dépasse le nombre, je crois, de 40, elle se divise en deux. Et puis, va se recréer un territoire. Et apparemment, l'être humain n'a pas compris tout à fait la loi des éléphants.
Non. Bon, ça fait réagir à plein de choses. Là, quand j'ai proposé ça, c'était bon, pour faire du débat. Et aussi, l'une des choses, c'est, en fait, tout ce sur quoi je n'ai pas prise ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que si je n'ai pas, je peux bien dire qu'il faut que ça change. Si moi, j'ai aucun moyen pour que ça change, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est du fantasme. C'est-à-dire que, par exemple, la question de la population, c'est pas que ça me préoccupe. Il est bien évident que quand on dit les ressources sont limitées dans un monde, les ressources sont limitées dans un monde limité et que donc on ne peut pas faire croissance à l'infini, de la même manière, la population, si elle ne peut pas croire à l'infini non plus. C'est-à-dire que à partir du moment où la population consomme une partie des énergies, c'est limité. C'est-à-dire que les deux sont limités. Sauf que pour moi, la question de la population, j'y peux rien, quoi. Enfin, aucune prise
d'action. Nos élus ont une action, ne serait-ce que les CAF, tout ça. On paye au deuxième, troisième, au quatrième enfant, et plus on en a, plus on touche. Je pense que c'est une aide.
Ah ben, je pense que, par exemple, au-dessus de deux enfants, on pourrait supprimer là. Mais attention, hein. Attention. C'est-à-dire que... Non, mais on est bien d'accord que... Notre problème, il se situe à comment on évolue dans ce tableau-là. Comment on évolue dans ce tableau-là. Je vais simplement répondre à la question sur les inégalités par rapport à l'argent. En fait, je pense... Je vais peut-être faire bondir des... Voilà, c'est pas grave. Je pense que tant qu'on se pose la question de l'autre a de l'argent... Et ça m'emmerde, on est dans le même système de pensée que lui. C'est-à-dire que le seul moyen de sortir de ce système de pensée, c'est de dire, moi, son problème, lui, il a du pognon, je m'en fous. C'est pas mon problème, moi, je suis libre, je suis heureux, je me dégage de ça. Et ça, c'est la seule chose qui puisse le faire bouger. Parce que notre ressentiment par rapport à son problème d'argent, ça le nourrit. Je pense que ça le nourrit. Et donc, on doit sortir de cette manière de penser.
Parce que, écoute, quand on voit la politique des partis de gauche et même d'extrême gauche, qu'on connaît, Pierre et moi, j'ai vécu dans un
milieu
communiste, etc., c'est, le but, c'est parti, là, je regrette, ça, pour dire non, mais. C'est d'essayer d'être riche, d'avoir de l'argent et d'être comme les riches. C'est pas alors détenir les moyens de production, etc. Mais pourquoi au bout du compte, c'est la leçon que j'en ai tirée. C'est voilà, il faut être riche. Et c'est ça. Bon, on essaie de dire on peut être riche autrement que avoir de l'argent.
Voilà. On est dans un système.
Non, je crois là il y a confusion de mots. Quand Marie-Pierre parle de richesse, c'est-à-dire tout ce qui est produit, c'est ça qu'on appelle la richesse produite, et on parle de ça, de comment c'est reparti. Est-ce que c'est... Parce qu'avec cette richesse produite, il faut aussi financer le système de santé, la retraite, les écoles, la formation, les eaux, tout ça, c'est là la question. Comment on répartit la richesse produite ? Est-ce que c'est, ça, tout afflue dans les poches de quelques-uns et les autres ? Ou est-ce qu'on participe tous à cette, d'une manière ou l'autre, à cette richesse produite. Et ça n'a rien à faire avec est-ce que j'ai 50 euros, est-ce que j'ai 5000 euros. C'est pas ça dans lequel on parle quand on parle de richesse produite, hein, de la répartition des richesses. C'est pas ça se mesure pas en 5000 euros ou pas. Ma question, c'est cette action-là de sortir de ce cercle, de quoi ça consiste en fait? Pour moi, c'est assez vague jusqu'ici.
Eh ben, en fait, à partir du moment où tu ne vas plus dans un supermarché, où tu as une petite bagnole que tu gardes pendant 15 ans, que tu vas aux AMAP, tu n'as pas 36 portables, tu sors.
Pas de télé, pas de carte bleue.
Pas de télé, pas de carte bleue, si, ouais.
Ah, moi, j'en ai jamais eu.
Voilà. Bon, après, le niveau.
Faut savoir résister.
Après le niveau, c'est à nous de le choisir. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut le choisir.
Ça, c'est créateur de
vie. Ça me prend même pas.
Alors, hé, qu'on soit bien clair. J'ai pas, quand j'ai proposé ça, j'ai pas dit que j'avais une solution qui était la feuille de route que tout le monde devra suivre à la sortie. C'est des propositions dans lesquelles on s'inscrit pas, on rediscute. L'intérêt que je trouvais à cet exposé, c'était surtout de susciter de la réflexion sur la manière de changer. Parce que je rappelle quand même qu'à terme, on peut attendre la 6e République, on peut lutter contre le capitalisme, mais de toute façon, on a 30 ans. Non, mais je dis 30 ans, ça pourrait être 40, 50.
Si on se fait de suite, là, si on élimine les 6 milliards.
Ça marche, hein ?
On est tranquille, on peut voter.
Ça marche. Non, mais il faut. Attends, j'ai parlé des possibles, j'ai pas parlé des souhaitables. On est bien d'accord.
Quelqu'un a un micro, là.
Oui, enfin, pour revenir sur le sujet de l'énergie. Il y a quand même aujourd'hui quand même des gens qui sont en précarité énergétique. Alors, moi j'entends bien de dire, bon, je fais rien qu'avec une voiture, etc. Mais l'argent, j'y pense pas, bon, etc. Enfin, il y a quand même des gens aujourd'hui, il y a 4 millions, je crois, de personnes en France et 200 000 en Midi-Pyrénées, qui sont ce qu'on appelle en précarité énergétique. Ça veut dire qu'ils ont 10% de leurs revenus qu'ils sont obligés de consacrer à des dépenses énergétiques, aux voitures, au chauffage, etc. Et si on étudie bien un peu la question, ce sont des gens qui sont dans des logements très énergivores, etc. etc. Donc, je comprends intellectuellement ce que vous avez présenté. Je trouve que c'est très bien parce que ça fait référence à une responsabilité personnelle par rapport à une écologie, etc. Mais il y a aussi quand même une réalité économique qui fait aujourd'hui quand même que c'est un peu difficile pour une certaine catégorie de la population à accéder, enfin, à faire ce que vous voulez mettre en œuvre.
Mais on a un gros problème, c'est qu'on est arrivé au stade où Hannah Arendt parle des hommes de trop. C'est-à-dire que nous sommes dans la civilisation des hommes de trop. C'est-à-dire que les capacités de production industrielle ont fait qu'on n'a plus besoin de force de travail, on n'a plus autant besoin de force de travail pour produire beaucoup plus que ce qu'on produisait même il y a 15 ou 20 ans. Donc, en fait, on a ces hommes de trop. Et les personnes dont vous parlez qui sont dans la précarité énergétique, c'est effectivement les hommes de trop. Or, le seul moyen qu'on a, c'est, quand on a adopté cette solution-là, c'est de travailler le collectif. C'est-à-dire, quand on développe du transport en commun, quand on développe du covoiturage, on permet à ces personnes d'éviter de rentrer dans la précarité énergétique. Quand tout à l'heure, j'entendais que la ville est plus polluante que la campagne, en termes de CO2, l'Aveyron est calamiteux. C'est-à-dire qu'en termes de CO2, les quantités de CO2 qu'émettent le citoyen aveyronnais sont bien pires que, les capacités, que le CO2 émis par les gens à Toulouse.
Par rapport à quoi ? Par rapport au kilomètre carré ou par rapport
au... par rapport à
l'habitat ?
Aux émissions par habitant.
Ah, oui.
Aux émissions par habitant.
Le kilomètre carré, c'est...
Tu intègres le méthane ?
C'est la quantité, d'énergie consommée.
Il y a pas de bestiaux à Paris, c'est sûr.
C'est la quantité d'économie, Non, non, là, on parle que des transports, du chauffage, c'est le transport, le chauffage, etc.
Ça, c'est clair. À Berlin, j'ai jamais utilisé la voiture. Quoi en faire ? Ici, j'en fais 100 km par jour. C'est clair.
Oui, mais en fait, attends. C'était pour dire un peu ça, que pour moi, c'est assez clair que quand on vit en ville, si on vit en consommant de la même manière et en ayant le même... on pollue moins en ville, on a moins besoin de voiture pour se chauffer, chauffer un appartement ou chauffer une maison individuelle, c'est pas du tout la même chose. On peut mettre en commun beaucoup plus de choses. Il peut y avoir des laveries si on a envie d'être plus... plutôt que d'avoir sa propre machine à laver, la ville, en soi, consomme moins. Après, il y a plus de sollicitations à la consommation. Mais si soit on est
en
pour moi c'est.
Mais il faut bien comprendre, il n'y a pas de pensée sans contradiction. C'est-à-dire que quand je parle de feuilles de route, c'est bien ça. On ne va pas tous migrer vers Toulouse en disant putain, on pollue quand même vachement moins à Toulouse qu'en étant ici. On est bien clair que c'est des pistes, c'est des idées pour aller vers ça. Mais après, il faut comprendre que pour la précarité énergétique, par exemple. On a la question de l'isolation des logements. Ça, quand on n'a pas d'argent pour l'isolation, on continue à payer plus d'énergie, on en brûle plus parce qu'on ne peut pas payer l'isolation sur le logement. Il est bien évident que le citoyen qui bouge ici, il doit aller ici pour mettre les villes en transition, pour permettre du transport en commun, pour permettre d'isoler les logements, etc. Il doit jouer sur le politique. Quand je parle de ça, c'est simplement que c'est là que ça peut commencer à bouger. C'est l'espèce de petit grain qui se retire, qui fait que le sable descend petit à petit. Parce que si on attend cela pour faire la transition énergétique, je suis désolé, mais on va attendre longtemps. Sauf quand ils n'auront vraiment plus rien et qu'ils n'auront plus le choix. Et ils vont choisir ça. Et s'ils n'ont pas eu le temps de choisir ça, ils vont choisir ça.
Actuellement, le gouvernement a un projet, et il va surtout certainement le faire, de mettre en place des régions qui regrouperont l'ensemble des régions. Au lieu de 20, on va tomber à moins. En plus, la décentralisation propose, dans le même cadre de réflexion politique, de mettre en place les métropoles, je crois que ça s'appelle comme ça, métropoles. C'est-à-dire que dans chaque région, vous aurez une ville phare, ça s'appelle Marseille-Aix pour la région PACA, ça s'appellera Bordeaux, je sais pas quoi, pour la région Aquitaine, machin. Nous, on aura Montpellier, on aura Languedoc, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon pour ce qui est de la région, et on aura la mégalopole qui sera sûrement, la métropole qui sera sûrement Toulouse. En Normandie, il y a Basse-Normandie, Haute-Normandie, il y a une bagarre Caen-Le Havre-Rouen pour savoir qui va avoir la métropole. En sachant que dans ces régions, vous avez ce qu'on appelle les conseils économiques et sociaux et environnementaux, écologiques et environnementaux, les CESER, qui décident un petit peu, qui décident pas, qui sont des forces de proposition, comme nous on en est aujourd'hui, mais eux c'est à un niveau régional. Alors, imaginez-vous la même assemblée avec des encravatés qui discutent. Et donc, ils décident, ces gens-là, de comment va être la région et comment va être la métropole. Pour ce qui est le cas de la Basse et Haute-Normandie, la région, la ville de Rouen, gueule contre Le Havre et Rouen, au niveau de ce César, pour dire, nous, on veut pas forcément être la métropole, mais il la faut, parce que la métropole est le synonyme de progrès, de bien-être et d'évolution. Donc, je ne veux pas contredire ce qui vient d'être dit sur habiter en ville, mais il est clair qu'actuellement on nous propose un projet pour qu'on aille tous à Toulouse, tous à Rouen, tous à Marseille. C'est clair. Parce que là-bas, vous consommerez moins de gasoil pour aller peut-être au travail si vous habitez dans le HLM, puisque l'habitat il doit être en hauteur et pas à plat, ce qu'on peut comprendre. Il y a des choses intéressantes. J'ai habité en HLM une grande partie de ma vie, c'est très intéressant, c'est bien, j'aime ça. Le souci de tous se retrouver à Toulouse, pour nous par exemple, c'est qu'il faut qu'ils construisent à Toulouse une deuxième rocade. Je ne suis pas certain que si on compte le prix de la rocade et l'investissement béton en truc énergétique, là, en CO2, que ça soit intéressant qu'on se retrouve tous à Toulouse. Si on ne prend pas cette rocade en compte dans la pollution, la transition énergétique, oui, il faut aller à Toulouse. Mais si on prend les 300 km qu'il va falloir faire à 40-45 km, c'est déjà en projet depuis 20 ans, hein, je signale. Si on le prend en compte, c'est sûr que Veolia, ils ne pourront pas le faire. Mais si on ne prend pas en compte, oui, Veolia et machin, ils se gavent là, ils sont heureux. Et nous, on finit dans nos maisons de retraite à Toulouse, à l'école à Toulouse, dans le supermarché à Toulouse, parce qu'on sera tous à Toulouse. Je peux pas trop entendre que la solution est la ville. La métropole, elle peut être la ville Marcillac, Sainte-Afrique, Espalion, Rodez. Là, on commence à parler de choses sérieuses. Là, on met des purflux un peu partout dans ce département, les endroits où il y a de la production, pour voir où c'est qu'on peut produire et récupérer l'argent de la production, ce que disaient Léna et Marie-Pierre, et on les met dans ces villes-là, au lieu de les ramener à Toulouse. Vous tournez ça dans tous les sens, avec les projets gouvernementaux actuellement, et là c'est nos élus qui le décident, mais c'est nous, on est des futurs élus en tant que citoyens, et on est en train de décider ça. Ça me gêne un peu.
Juste, c'est vrai que l'aménagement du territoire a disparu complètement des instances politiques. Ça existait à l'époque, les secrétariats à l'aménagement au territoire. Le secrétariat au plan aussi existait. La réflexion au niveau du politique institutionnalisé, elle n'y est plus. C'est quelqu'un d'autre qui pense pour ces institutions-là.
Ah ben là, tu parles du temps où il n'y avait pas de Premier ministre, c'est que ça. Un président du Conseil. C'était quand même la 4e République. Là.
Non, je parle aussi de la 5e de Gaulle, République. Oui, Pompidou, Giscard. Le plan a disparu après Giscard.
Oui, Pierre, sauf votre respect, mais suite à plusieurs interventions, vous nous avez montré de façon péremptoire et totalitaire le totalitarisme.
C'est impossible.
N'y a-t-il pas une autre voie à laquelle nous participons tous plus ou moins ici, celle de, je laisse de côté le terme éducation, le côté information réelle, réflexion et adhésion. Par exemple, pour les naissances, il y a énormément de citoyens qui peuvent convenir, après avoir compris tous les problèmes de la surpopulation, que
nous avons déjà 2-3 enfants, on peut peut-être envisager les choses autrement que d'en faire encore un 4e et un 5e.
C'est possible que ce soit totalitaire, c'est un vieux fond.
Non,
qui remonte des fois
du communisme.
Sauf votre respect.
Merci. Mais bon. Pour moi, ce qui se passe ce soir, ça se passe ici. C'est typiquement ce qui se passe ce soir, c'est ici. Donc pour moi, c'est tout à fait dans ce qu'il faut faire. Enfin, alors, il y a par exemple, en ce moment, il y a un projet de maison commune qui est en train de se mettre en place. Canopé va se mettre dans ce projet de maison commune dans lequel il y aura la PABA, la CONF, il y a plein d'autres associations. On fait une réunion, c'est le 10 octobre, Laurent ? Je crois que c'est le 10 octobre. On a une réunion le 10 octobre dans laquelle on cherche on désirait qu'il y ait des forces vives qui investissent pour travailler sur cette question de maison commune. Il est bien évident que si les citoyens ne se mettent pas en place pour la maison commune, elle existera peu ou pas. Les jeudis en question, c'est quand même des citoyens qui l'ont mis en place.
Il faudrait que tu mettes un S, un citoyen, et puis tu
mets
un mot collectif quelque part.
Citoyen et collectif.
Voilà.
Ah, mais. Oui, oui.
Et Tarta aussi, là,
ouais. Bon, allez.
Ouais, mais là, il faut le mettre en noir.
Non, mais, par exemple, pour Tafta, j'ai envoyé un courrier au maître de la, au maire, lapsus révélateur, au maire de l'Aïeul, en lui disant, ben voilà, on va à pied jusqu'à Paris contre Tafta et pour récupérer le nom de l'Aïeul. La fois dernière, je l'ai vu en réunion, il m'a regardé, il m'a dit, ah, c'est un peu bizarre comme idée. Mais bon, en tant que citoyen, ben voilà, proposer ça, ça marchait pas, etc. Je pense que la dynamique, c'est les citoyens. Les jeudis en question, ça existe parce qu'il y a des citoyens. Les faucheurs volontaires, ça existe parce qu'il y a des citoyens. Canopé, ça existe parce qu'il y a des citoyens. Donc je pense vraiment que tout ce qui sort de là, c'est du fantasme. C'est-à-dire tout ce qui sort en disant « il faut que ça change ». Mais moi, j'y peux rien. Je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question.
Dans ce sens, je souhaiterais
que
je
mélange plus d'énergie dans ce sens. La question que je voudrais poser, c'est un petit peu par rapport à la conscience, à la formation du citoyen. Parce que si il n'y a pas assez de monde, on l'a évoqué juste tout à l'heure, pour sortir de ce cercle, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le cercle va se resserrer dans une ville ou une métropole ou je ne sais où, et que les citoyens écartés seront vraiment écartés. Sauf s'il y a effectivement une prise de conscience de la plupart des citoyens de la nécessité de sortir de ce système. Et là, il y a une question d'éducation, d'information et de structure.
Ben, le collectif de citoyens, c'est un collectif qui se forme, qui apprend à vivre, à travailler ensemble et qui agit. C'est-à-dire, si un collectif de citoyens n'est pas, on va dire, employé mot démocratique,
simplement tout à l'heure on nous disait que on espérait que par exemple aujourd'hui il y aurait davantage de monde à cette réunion. Il se trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors certainement qu'il y a des activités diverses qui des manifestations ailleurs, mais le problème c'est que aussi une conscience de cette nécessité de participer à une interrogation collective, etc., sur un sujet qui touche quand même tout le monde, n'est pas suffisamment grand pour mobiliser l'ensemble des citoyens qui sont concernés. On existe en tant que tel, collectif, mais collectif réduit. Et c'est bien alors, ça qui pose problème.
Ça rejoint.
Donc je suis plutôt pour une formation, de réflexion qui soit élargie au niveau où ça existe de façon possible, c'est-à-dire au niveau politique.
Qui génère ça? Des associations. Et qui génère ça?
Ah ben, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites actuellement pour modifier, par exemple, le fonctionnement de la République. Par exemple. Non?
Oui, mais j'essaie de faire le lien avec ce qui est dit. Bon, alors, les gens qui ne sont pas là ce soir, je veux dire, quand les jeudis en question organisent quelque chose, ils font quelque chose. Si les citoyens ne sont pas là, ils ne sont pas là. Et si les citoyens ne sont pas là, ils vont vers cette solution-là.
Ils font peut-être
d'autres choses. Après, il y a peut-être d'autres collectifs. Il y a d'autres collectifs ailleurs. Il y a des choses qui sont ailleurs.
Parce que ce discours, toujours, de dire on n'est pas nombreux, donc alors on ne fait rien. On peut rien faire, c'est mortifère.
Ah mais est-ce que j'ai dit ça?
Non, non, d'accord. C'est moi qui le dis.
Ah oui, ok.
Effectivement.
Oui. C'est moi qui le dis. Mais je pense qu'effectivement, il faut bouger, proposer, faire, et puis le jour où ça prend, ça prend. Le jour où si ça prend pas, ça prendra pas.
Mais moi, je trouve, et c'est intéressant, mais je rejoins ce que disait Léna tout à l'heure, moi, je trouve ça quand même, ça reste très vague. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vais repartir d'ici et je vais dire « Ben oui, mais bon, et après ?» J'ai besoin de concret, moi.
Eh bien, le concret, c'est... Alors, on peut rentrer dans cette partie-là. Effectivement, comment on peut faire quand on est citoyen? Alors,
À Canopée, on propose de faire son bilan carbone. Bon, ça peut paraître... Qu'est-ce que ça permet, le bilan carbone? Le bilan carbone permet de ne pas fantasmer sur ses consommations. C'est-à-dire, je sais que je fais tant de kilomètres de voiture, je sais que... Et l'intérêt du bilan carbone aussi, c'est de dire, voilà ce que je consomme actuellement, quand... et voilà vers quoi je désirais tendre. Parce que c'est bien beau de dire il faut produire moins de carbone, mais si vous êtes à 50 000 km de voiture par an, vous pouvez bien avoir tous les discours, ça ne tient pas. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est connaître un peu les postes, je n'ai pas trop le terme, les postes sur lesquels vous pouvez agir. Et donc, les postes sur lesquels vous pouvez agir, c'est vous faites votre bilan carbone, vous regardez combien vous consommez, vous dites, voilà, il faudrait arriver à cette consommation-là, je mets en place des stratégies pour aller vers ces consommations-là. Ça, c'est très technique. Enfin, je veux dire, du coup, là, pour le coup, c'est très technique. Il parlait d'Enercop, je vais à Enercop. C'est un point important aussi. Je vais plus au supermarché. Je ne vais plus au supermarché. Je vais, il y a bien une AMAP, il y a un panier paysan, il y a un producteur bio, je vais, voilà. Je veux dire, des actions concrètes et précises, il y en a plein.
Oui, et il y en a une autre, moi, il me semble qu'il y en a une autre qui paraît importante aussi, c'est la banque. Parce que, ben oui, parce que c'est aussi une manière de voir le global, parce que finalement, si on regarde tout ce qui se passe, c'est quand même les banques qui sont au cœur du problème, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'en arrive à me dire ça. C'est peut-être un peu naïf, mais je me dis ça. Et donc, comment on peut agir aussi sur... Ce levier-là, on peut, à mon avis, tous appuyer un tout petit peu dessus en se demandant dans quelle banque on est et à qui on confie le peu d'argent qu'on a, beaucoup d'argent qu'on a. Et ça peut, à des petits niveaux, si chacun se pose cette question et éventuellement change de banque, ça peut... C'est un travail de colibri qui, à mon avis, est assez... rentable, c'est le cas de le dire.
Alors, me diriez-vous que vous aviez des solutions et que vous n'osiez pas les proposer?
Juste pour la suite de ce que tu viens de dire, il y a quand même, de la part de la banque où je suis, la banque postale, l'apparition de publicités pour dire qu'ils peuvent mettre vos fonds dans des endroits qui sont très vertueux. Ce qui veut dire que quand même, ces gens-là, on commence à voir apparaître des banques qui sont nées de la vertu, elles, et qui continuent à l'être, alors qu'eux ont peut-être été... Donc il y a quand même une incidence de ça. Il y a des gens qui sont sortis de ces banques non vertueuses et qui ont foutu la merde. Il y a des gens qui sont sortis et donc maintenant ils se disent oulala, il ne faut pas quand même trop les laisser partir. Donc on va leur dire que ce qu'on fait quelquefois c'est bien. Ça, il y a la semaine dernière.
Si j'ai bien compris ta remarque, que faire à partir de demain au niveau des banques? Il y a d'autres assos qui travaillent aussi, qui expliquent ce que c'est que la réforme, les différentes réformes bancaires. Et c'est pas inintéressant de voir qu'on a écarté le monde, alors que dans les réformes bancaires qu'il y a eu, il y a différents systèmes, et c'est intéressant de tourner et d'expliquer quels sont les gagnants, la réforme Volcker, Vickers, etc. Donc là, il y a un moyen. Si on veut agir aussi plus sur le terrain, par exemple, c'est aller projeter des films dans les différents villages de l'Aveyron. Il y a une association dont des multitudes ce soir. Et là, il y a besoin de bénévoles qui aident. Et c'est vachement important de projeter des... Yazine qui se marre. C'est vachement important de projeter des films dans des villages où il y a Pilsinoche. Ne serait-ce que s'il y a 10 personnes qui quittent leur télé pour se réunir et voir un film alors qu'ils n'ont plus l'occasion d'en faire, là c'est du travail de terrain. Donc on peut avoir aussi du global, donc avec la fiscalité, pourquoi pas, il disait rien, c'est pas forcément possible, mais Roosevelt avait monté le taux de fiscalité à 90%, au-delà d'un million, on voudrait le faire au jour d'aujourd'hui, c'est pas faisable, si, ça a été fait. Donc j'ai l'impression que vraiment du global et au niveau mondial, jusqu'au niveau des petits villages où on va projeter des films, il y a de l'action à faire, dès demain matin. si tu veux les coordonnées de mon démultitude, ou bien d'attaque.
Moi, j'ai une question, mais je dois pouvoir parler sans micro, a priori. On est donc en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait demain. C'est sûr qu'il faut en passer par ça, mais peut-être aussi de se demander quels gestes, les gestes que l'on va faire demain, qu'est-ce qu'ils vont donner dans 40 ans ou dans 50 ans. Et ça, on ne s'en est pas encore posé la question. Pourtant, il me semble que quand même, il faudrait un peu regarder loin. C'est comme quand on conduit, quoi. Et là, de suite, on voit arriver plein de nouveaux problèmes. Enfin, je ne sais pas si c'est des problèmes. Comment l'auto-gérer ne retombe pas dans les macro-systèmes que l'on veut éviter? Si on y retombe, qu'est-ce que ça donne? Où c'est qu'on se situe? Dans le totalitaire Voilà, sachant que si on se passe des macro-systèmes de suite, l'auto-gérer qu'on est en train d'imaginer pour demain, il n'existe plus parce qu'on risque de revenir à l'auto-gérer du papy. Alors, est-ce qu'on est... Ça aussi, ça se discute. Et là, il me semble qu'on a plein de nouvelles questions, mais on est reparti pour la nuit.
Bon, sur la question de ce qui va se passer dans 40 ans, je suis allé à une exposition, c'était pas la Cité des Sciences, c'était où il disait, on veut rendre nos déchets nucléaires, on peut les ressortir, parce que comme ça, les gens dans 40 ans auront le choix. j'ai trouvé ça assez grandiose comme truc. En fait, on leur laisse dans le crosse-mer, mais ils pourront en faire ce qu'ils en veulent. Enfin, ils ont vraiment de la chance, les coups. Donc, je comprends bien, le sens de la question, ça veut dire, si ce qu'on met en place maintenant, est-ce que ça peut pas être calamiteux dans 40 ans?
Calamiteux, non.
Je pense que ça, c'est un processus permanent. C'est-à-dire, on n'a pas la solution maintenant pour les 40 ans à venir, et dans 40 ans, on se repose la question en disant, bon, voilà, on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que ça, c'est un processus permanent. Voilà. Donc, ça te répond en partie à la question, sachant que, comme on va aller dans une de ces solutions, il faudra bien un moment réajuster tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de penser, etc. Maintenant, sur la question de la croissance, parce que la croissance, c'est du travail. Parce que, en fait, l'une des grandes peurs, c'est la disparition du travail. Ouais, et puis là, on va parler de travail, mais en fait, le problème, c'est pas de travailler. Le problème, c'est que tout le monde puisse vivre et avoir des revenus. Or, la technique, les techniques qui ont été mises en place, les gains de production qu'on a fait sur les 30 ou 40 années, nous permettraient largement de vivre très confortablement. Or, on ne le fait pas. Et donc, ça rejoint la question, effectivement, de la distribution, la redistribution de ce qui est, produit.
Ça reste dans une logique, tout ce travail que l'on peut s'éviter parce que des machines le font à notre place, des automatismes, etc., ce n'est valable que dans le cadre d'une énergie bon marché, quand même. Disons, grosso modo, c'est quand même très envisageable dans ce cas-là. Sinon, ça devient difficile.
Alors, dans le scénario des négawatts, il n'est pas dit qu'on supprime l'industrie, par exemple. En revanche, ce qui est produit, ça dure plus longtemps. L'obsolescence programmée, par exemple, voilà. Donc on a plus besoin de retravailler 25 fois à fabriquer un frigo quand on l'a fabriqué une fois. Donc ça fait déjà 20 boulot divisé par 25, quoi. Enfin, après, je sais pas quel va être l'avenir. Je sais à peu près dans quel cadre il va se positionner. Enfin, je sais. Il me semble que ça va être dans l'un de ces cadres-là. Après, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont apparaître que je ne connais pas. Quand vous regardez la pensée politique, la pensée philosophique, il y a des choses qui étaient vraies à un moment parce que le gars, il avait les informations qu'il avait à cette époque-là. Avec les nouveaux paradigmes, les nouvelles questions, ça évolue, quoi. Donc, je pense vraiment que ce qui est important, c'est que le citoyen et les collectifs de citoyens soient toujours en mouvement. C'est-à-dire en mouvement intellectuel, en mouvement physique, en changement permanent.
Moi, je pense qu'on a tendance
peut-être
à...
Peut-être une toute petite proposition. Ouais. Juste une petite proposition de quelque chose qu'on peut faire tout de suite, tout le monde, c'est d'éviter d'utiliser de l'aluminium dans des produits qui qu'on jette. Des petites bougies avec de l'aluminium autour, de la bière dans du bois. L'aluminium est un des productions le plus énergivore envisageable. Et tout ce qu'on jette en aluminium, c'est vraiment pas à faire.
Oui, le problème de l'aluminium, c'est que visiblement dans les déchetteries ou dans les centres de tri, ils ne le récupèrent pas. Ils récupèrent l'acier, mais l'aluminium, jusque-là, le moyen de trier l'aluminium n'est pas encore découvert. Hein. Je veux dire que récupérer de l'aluminium, ça voudrait dire que chaque individu ou chaque usine qui produit des déchets d'aluminium, elle les met de côté dans un paquet qui s'appelle aluminium et qu'à ce moment-là, on regroupe tous les paquets marqués aluminium. Mais dans les déchetteries, moi, je n'ai pas vu qu'ils récupéraient l'aluminium. Ils récupèrent l'acier, tout ce qui est acieré, mais l'aluminium en tant que tel, récupéré, moi, je l'ai vu. Sur le tri sélectif. Sur le tri sélectif.
Éviter.
Oui.
Oui, non, mais il faut éviter, mais n'empêche
qu'ils
le récupèrent.
Bon,
allez, l'aluminium.
Ils récupèrent l'aluminium en tant que tel.
Il y a des tri pour les métaux non magnétiques.
Comment ?
Il y a des tri pour les métaux non magnétiques. Mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi le trier nous-mêmes. On peut avoir un carton à alu et puis un jour on va chez le ferrailleur ou ailleurs.
Essayez d'éviter les gens.
Moi je fais ça. Et... C'est
vrai. Je pense qu'on a tendance à parler de l'humanité comme si la Terre nous appartenait. Et en fin de compte, la Terre a fonctionné sans nous. La Terre fonctionnera sans nous parce qu'on va partir. On va partir plus rapidement que prévu, parce qu'on a mis en place un système économique qui nous gère, nous, les humains, qui est basé sur la croissance, et entre autres, la croissance démographique. Donc de toute façon, par notre comportement, si on ne change pas de politique économique qui gère l'être humain sur la planète, on va forcément droit dans le mur, bien plus rapidement que l'inévitable. Parce qu'à long terme, l'humanité, elle ne durera pas. Mais on ne fait que par notre comportement, et on peut effectivement retarder l'inévitable par un comportement différent chacun dans son coin, mais surtout par une politique économique globale, mondiale, qui fait ce qu'on retarde l'inévitable, et en contrôlant effectivement la présence de l'être humain sur la planète. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne fait que contrôler la présence des autres êtres vivants sur la planète. Le nombre de ceci, le nombre de cela, le nombre de bestioles, le nombre de chameaux, le nombre de machins. Il y en a trop de ceci, il y a trop de lions, tout ça. Non. Il y a trop de bonhommes. Et on oublie de se le dire parce que ça fait mal à entendre. Alors bien sûr qu'on ne va pas éliminer des gens comme dans ton cas de survivaliste, mais inévitablement, on y va.
Alors,
inévitablement, on peut retarder l'inévitable, mais il faut pour ça remettre en question tout un système économique qui nous gère, qui est basé sur la croissance. C'est débile. Dans un monde fini, on est sur une petite boule qui n'est pas grande. Et elle peut tourner encore longtemps avec nous, et elle tournera longtemps, mais sans nous.
Alors, ce qui se passe, c'est que ce qui va, dans les cas de la transition, ce ne sera pas la 1, la 2, la 3 ou la 4, ce sera probablement un mix, un mix de l'ensemble, et on ne sait pas trop ce que ça va donner.
Parce qu'on a à l'heure actuelle un petit paradis, cette petite boule sur laquelle nous sommes dans l'univers, c'est un paradis, on en cherche, parce que justement, face à ces problèmes-là, il y a beaucoup de gens qui cherchent la suite en disant « Oh putain, on est en train de foutre le merdier là, il faut qu'on trouve ailleurs pour pouvoir se réfugier et trouver d'autres ressources éventuellement, tout ça. » Alors qu'on pourrait très bien continuer à vivre très correctement sur cette planète-là, longtemps, en faisant attention à beaucoup de choses, mais entre autres à notre présence, à nous en tant qu'êtres humains, à notre nombre. Parce que c'est petit, la planète, tu fais 40 000 km à l'équateur, c'est rien. Tu fais 20 fois l'aller-retour Paris-Marseille et ça y est, t'as fait le tour de la planète. Donc c'est pas grand. Et on est en train de foutre un bordel là-dessus, aussi connement que les pucerons quand ils sont en train de se d'attaquer un rosier, qu'ils bouffent le rosier jusqu'à le tuer. Et bien nous, on est en train de faire la même chose. On a le même comportement que des pucerons sur un rosier, qui attaquent un rosier. Parce que si tu mets une famille de pucerons qui sont tranquilles, là, ils jouent de la guitare, ils n'est qu'un peu de temps en temps, ils sont bien sur leur rosier, 20 ans après, le rosier, il est toujours là. Il donnera à bouffer à ce puceron. Et bien nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si elle nous appartenait, mais on n'est que les hôtes. On est les invités de la planète. Ça ne va pas durer longtemps, parce que nous sommes idiots. Mais on est des invités. Ça ne va pas durer longtemps.
Bon. Ah ben là, sur les pucerons, je ne connais pas grand-chose. Tout ce que je peux dire, c'est que les vers de farine, moi j'aime bien l'exemple des vers de farine, c'est, en fait, il y a un sac de farine, il y a les vers de farine, ils croissent, voilà. Et ils disparaissent.
Voilà. Et bien, c'est exactement ce qu'on
a. On est peut-être comme les vers de farine.
On vaut pas mieux.
Ben, on vaut pas mieux, c'est une espèce
comme ça. Dans notre comportement, on vaut pas mieux.
C'est une espèce comme ça.
Donc la solution, c'est chacun d'essayer de continuer jusqu'à temps que le produit nous rappelle, et puis d'être le plus humble possible et le plus gentil possible avec la planète, parce qu'après on va se faire engueuler par les petits-enfants. Alors ça, nous, quand on sera avec notre canne, t'as les enfants qui vont arriver. Vous avez foutu le bordel, bande de vieux cons.
Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis à Canopée et tout. C'est une fois, il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi tu fais ça et tout. Bah, au moins, quand mes petits-enfants ont 20 ou 30 ans, quand je leur dirais, mais tu sais, papy, il a fait ce qu'il a pu. Il ne pouvait pas grand-chose, mais voilà, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles on agit. Quoi. Enfin, moi, j'agis, c'est en partie pour pouvoir au moins affronter un peu le regard de mes petits-enfants. Et je ne pourrais pas l'affronter totalement.
Bon, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour des choses. On est au bout d'une journée avec des hauts et des bas de fréquentation. Le débat était riche ce soir. On peut se donner rendez-vous pour un prochain jeudi en question. La soirée, ce débat-là, ça a permis de mettre le doigt sur certaines choses. Bon, on a parlé tout à l'heure du système bancaire, mais il y a aussi tout le système d'approvisionnement et de consommation différent. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre chacun pour soi au moins, un peu plus en pratique, tout en n'allant pas jusqu'au talon, en restant toujours un petit peu au-dessus pour être joyeux.
Voilà. Oui, n'oublions pas quand même que ça, c'est source de plaisir.
De bonne humeur.
De bonne humeur et de plaisir.
De joie.
De joie.